Et avant, je vais donner la parole à Xavier Monbijan, qui en tant qu'écrivain souhaite justement répondre à Simon donc, et donc également à Philippe et à Laurent sur Uchronie. C'est ça, Xavier ? Voilà.
Alors déjà, un grand merci à tous pour ces magnifiques interventions. Ce que je vais dire est bricolé, puisque je réagis au fur et à mesure de vos interventions, j'ai pris quelques notes, mais donc c'est à trac, et surtout n'y voyez pas un argument d'autorité, c'est simplement, je veux témoigner d'une expérience personnelle d'auteur, c'est tout. Concernant la notion de démiurge que Philippe et Simon ont partagé, je suis pas d'accord dans la mesure où ce pouvoir de création existe dans n'importe quel type de fiction, dans la mesure où même en fiction mimétique on décide du devenir d'un personnage, sauf que là ce serait à la limite une question quantitative, ce serait des univers entiers. D'autre part, la question de l'auteur démiurge, elle est annulée si cet auteur lui-même met au centre de son questionnement le divin. Je vais parler à titre personnel, mais une fois de plus, sans argument d'autorité, et ça m'a passionné, mais j'aimerais répondre. Bon, en ce qui me concerne, la notion de sacré au minimum, la notion de Dieu, très souvent, est au centre même de mes fictions. C'est-à-dire qu'à travers tous mes romans, j'interroge la notion de divin. Par exemple, dans les mémoires de Ganesha et des Fontman, j'analyse le devenir d'un individu, Joseph Merrick, qui pense être Ganesha, Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. Dans Car je suis Légion, rassurez-vous, je vais être rapide, Car je suis Légion, j'imagine à partir de l'anthropologie babylonienne que les dieux s'endorment et donc les hommes forts d'une liberté absolue se déchirent puisqu'il n'y a plus de loi, etc. Dans l'Illiputia, j'essaie par un changement d'échelle d'imaginer que l'humanité sont les nains du parc de Coney Island et les dieux les propriétaires, ce qui est une nouvelle façon d'interroger le divin à partir d'un système symbolique. Et donc tout ça pour vous dire que d'une part c'est ça demeure le divin, une préoccupation de la science-fiction en tant que telle. Et d'autre part, je voudrais revenir précisément à Laurent Bazin, c'était très intéressant, mais je voudrais dire que l'opposition entre transcendance et rêve, elle se pose pas nécessairement. De même, votre opposition ou votre distinction entre l'Église et liberté, par exemple, oui, vous avez raison, c'est souvent une critique de l'Église, mais c'est peut-être aussi parfois pour revaloriser non pas la liberté de l'individu, non pas la liberté humaine, mais la grandeur du divin. C'est-à-dire que l'Uchronie permet de repenser le divin débarrassé du carcan politique, par exemple, de l'Église. De la même façon, l'opposition Église-poétique, je parle qu'en mon nom, hein, bien sûr, et surtout, c'est simplement en tant que complément que je parle, l'opposition Église-poétique n'est pas forcément la seule, puisque il y a une opposition qui m'est chère, c'est l'opposition Église-divin. Et donc voilà, il n'y a pas de question de... C'était juste simplement pour enrichir ou faire perdre du temps l'Assemblée. Voilà.
Merci. Alors,
merci Xavier. Alors, je crois que dans l'ordre, j'avais Jean-Luc Rivera. Non, pardon, devant. Ah oui, si, Simon. Pardon. Simon, vous répondez.
Oui, alors, on a un petit peu discuté, c'est des questions très, très vastes. Passionnante sur qui demanderait un travail approfondi. Alors, il y a d'une part une question qui se pose, c'est la question de la démiurgie dans l'Uchronie. Alors, je ne sais pas si tu as le problème de niveau, c'est bon. Alors, en fait, bien sûr, et d'ailleurs, Isabelle Vennerbourg a en partie réduit à néant ma petite astuce de on est dans l'esprit de Dieu quand on est dans une Uchronie, puisqu'elle a ramené à plus juste proportion la chose juste après, en mentionnant que, voilà, créer un monde, être écrivain, c'est être créateur. Mais alors, ce que, disons, la distinction et la piste de recherche que je proposais, disons, au-delà de l'évidence création en littérature égale création de monde, enfin, urbaine et contemporaine, c'est finalement l'idée que il y a une représentation, il y a une mise à distance. Lorsqu'on est face à une uchronie, on est nécessairement dans un processus qui est un processus de reconnaissance. On est forcément en train de reconnaître des choses. Et l'auteur va disposer, même quand c'est des choses qui sont lointaines, enfin des périodes peu connues, va forcément disposer des points de repère qui vont permettre d'interpréter ce qui se passe en fonction de connaissances historiques préalables. Et de ce fait, il y a plusieurs catégories de ce point de vue-là. Il y a des textes, disons, de type uchronique qui justifient explicitement leur divergence par une intervention extérieure, ce qui est une manière de déguiser un voyage temporel ou quelque chose comme ça. Mais lorsqu'on est en face d'une uchronie qui est uniquement de l'ordre de « il s'est passé telle chose » et non pas telle autre, mais le « non pas telle autre », il n'y a que le lecteur qui le connaît. L'alternative, le monde tel qu'on le connaît, il n'a aucune existence, aucune représentation dans l'uchronie. Dans l'uchronie, vraiment au sens extrêmement strict, Et dans cet acte-là, qui est de dire je pose un événement différent, clairement, il y a la seule justification, c'est le destin ou le hasard, mais en tout cas, une espèce de volonté, et il y a quand même une substitution entre la position de l'auteur. Et là, effectivement, comme le disait Xavier Maméjean, bien sûr, l'auteur décide de tout, mais on le sent, justement, dans l'uchronie, au sens reste, on le sait que s'il y a une divergence, c'est parce que l'auteur l'a voulu, et on l'a en permanence. J'étais un peu long, je suis désolé. J'aimerais juste revenir sur la question du divin dans votre œuvre. Effectivement, et je ne la connais pas assez bien, je reconnais mon incompétence partielle sur ce domaine, et dans les œuvres que je connais, je n'ai pas détecté de travail puissant du divin, même si effectivement il y en a. En revanche, comme on l'a dit quand on a discuté un petit peu en privé, ce qui est certain, c'est qu'il y a une... que j'ai essayé de mettre en valeur, mais que je ne peux pas vraiment analyser vraiment, dans la période ultra-contemporaine, il y a un intérêt plus fort pour le divin, une conciliation entre une pensée qui est une manière de réduire le surnaturel au naturel, mais pas de la façon, disons, brutale, comme on a pu avoir avec des masques, des dieux démasqués. Quoi. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous voulez réagir.
Non, c'est bon. Alors, Jean-Luc ?
Merci. C'est une question qui s'adresse plutôt à Laurent et à Philippe. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre communication, mais ce qui m'a frappé, c'est que le corpus que vous avez abordé ne traite que d'uchronies dans lesquelles les religions que nous connaissons existent et évoluent de manière différente. Et vous n'avez absolument pas abordé tout le corpus des uchronies dans lesquelles ces religions ne sont jamais apparues. Je pense, par exemple, il y a le roman de Xavier Maméjean, La Reine des Lumières, où on a un empire, c'est Alexandre qui a fondé un empire, il a conquis les Indes, donc le christianisme n'est jamais apparu. Il y a Vae Victis, il y a de Jean-Pierre Lègue, dans lequel c'est le culte de Mitra qui l'a emporté. Il y a d'autres uchronies et qui se développent beaucoup plus en ce moment, d'ailleurs, parce que je pense qu'elles répondent à certaines inquiétudes suscitées par l'actualité, dans lesquelles l'islam n'est jamais apparu. Donc je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas abordé ces ouvrages-là.
Alors, j'aurais un élément de réponse, et puis peut-être Laurent complétera. Moi, je dirais simplement, tout simplement, c'est ce qui donne la force à notre corpus. C'est de n'aborder que des textes qui sont vraiment comparables. Sinon, on se serait beaucoup dispersé, on aurait encore plus balayé et peut-être encore dit moins de choses.
Oui, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'on n'avait pas pour intention de faire un tour d'horizon de l'ensemble de l'uchronie contemporaine, parce qu'on aurait passé 20 minutes à lister l'ensemble des œuvres et on n'aurait même pas réussi à les évoquer toutes. Donc on a choisi... au contraire, dans ce très vaste corpus, de s'interroger sur des œuvres qui présentaient un dénominateur commun, qui était celui de penser la question du religieux comme étant au cœur même de la divergence uchronique, et ce faisant, de réfléchir sur le phénomène de l'ecclésialité. Voilà. Donc, on a cherché l'ensemble des uchroniques que nous pouvions identifier, qui répondaient à ce qu'il y a des charges, et on ne les a probablement pas toutes identifiées, mais on a choisi les principales.
Une question à propos de l'Uchronie. Justement, est-ce que une question qui porte sur le fait que ce sont des uchronies qui représentent les religions, et en particulier les religions du livre. Est-ce que j'ai rédigé ma question à travers la critique religieuse donc, que vous avez montrée, qui est menée dans ces textes-là, est-ce que finalement les auteurs n'indiquent pas de manière corollaire que ces trois livres mêmes, les trois religions du livre, seraient en réalité simplement des uchronies parmi les premières, mais parmi d'autres possibles. Uchronie qui serait située par rapport à l'histoire réelle, qui serait pour nous, pour beaucoup d'entre nous, celle de l'évolutionnisme et de la biologie, mais qui, uchronie, du fait qu'elle, qu'elle refuserait de se donner comme fiction, qu'elle refusait de se donner comme fiction, ben en réalité aurait produit chacune plusieurs mondes possibles actualisés, alors, qui seraient des dystopies peut-être aussi, actualisées.
Je répondrai peut-être que partiellement. La réponse, elle est, on va la chercher chez l'un des récits de notre corpus, Après le déluge, de Pierre Pelot, qui lui met en scène un écrivain. Alors d'abord, ce que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est que le point de divergence d'Après le déluge, c'est que c'est leur premier point, c'est que le mythe du déluge, le récit mythique du déluge, en fait, devient une histoire réelle et sert de point de constitution d'une société fraternelle. Mais sauf que c'est pas tout à fait la même histoire du déluge que l'histoire de Noé que nous connaissons tout à fait, il y a une fin un peu différente. Et dans cette histoire, dans cette société, un écrivain raconte et va publier une histoire alternative, donc une uchronie, avec donc des différences sur un autre déluge qui ressemble plutôt d'un peu plus près au récit du déluge que nous connaissons donc dans la Bible. Donc voilà, c'est ma forme de réponse. Cette uchronie-là est une mise à la ligne de l'uchronie dans laquelle l'histoire est elle-même devient une uchronie. Voilà.
On se transporte ici.
Alors bonjour. La question en fait concerne la place finalement de la muse entre créateur et créature. Je trouve que c'est un concept assez clé finalement, puisque on part du principe finalement que le créateur, écrivain, écrivaine est un dieu et qu'il raconte son monde comme ça et que finalement tout viendrait de lui. Donc la question que je me pose finalement, c'est est-ce que la muse a une place dans ce rapport entre créateur et œuvre littéraire, tout simplement.
Je suppose que c'est à moi que ça s'adresse.
À tout le monde, parce que je pense qu'elle est suffisamment générale, en tout cas.
Moi, je vais vous demander, qu'est-ce que vous entendez par muse ?
En fait, c'est très simple. J'ai vu une émission sur le site web TED, je suppose que vous connaissez, TED, où il y avait une écrivaine qui expliquait que les écrivains, depuis la Renaissance, en fait, sont considérés comme des démiurges, et que depuis, et que c'est un poids psychologique extrêmement lourd à porter pour eux, et que c'était peut-être plus ça, finalement, de faire appel à une petite entité abstraite ou hors du temps et hors de portée, qui permettrait d'avoir un peu d'inspiration. Et je trouve que c'est, enfin, à titre personnel en tout cas, je trouve ça très intéressant, et je trouve que, effectivement, ça peut enlever d'un poids qui pourrait être, à titre personnel, extrêmement difficile à porter, voilà, tout simplement.
Je vais répondre à ça. Personnellement, je n'ai pas envie ni besoin de muse. Je me mumuse moi-même. Pour ne pas avoir besoin d'être un mumusé. Ce serait superflu. Enfin, je veux dire, ce serait un obstacle entre ma création et moi. Il me semblait qu'on avait fait beaucoup d'efforts pour se délivrer de cette fameuse sapristi de muse et de l'inspiration avec un H. Non, c'est une responsabilité qu'on doit accepter, qui n'est pas nécessairement si lourde à porter. Une fois qu'on en a fait le choix, ok, il y a des fois c'est difficile, mais c'est un choix qu'on refait tout le temps, on en accepte les conséquences. Ce serait sans doute peut-être pratique, ce serait une échappatoire peut-être pratique, mais ce serait de la mauvaise foi. C'est vilain, la mauvaise foi. C'est tout ce que je pourrais dire. En quoi ? Oui, encore une fois.
Oui, enfin, je n'ai pas de muse non plus, mais je ne suis pas tellement concerné. Non, cela dit, effectivement, enfin, la représentation de l'écrivain comme créateur, il ne faut pas non plus l'exagérer. Enfin, c'est une métaphore. L'écrivain, c'est un travailleur comme un autre, qui est confronté à des pages blanches qu'il doit remplir de mots et qui a des contraintes de toutes sortes. Et il a peut-être, enfin, il fait partie dans beaucoup de cas de ces travailleurs qui ont trouvé le travail qui leur plaît et il en tire un plaisir infini qui le rattire vers la page. Après, qu'il souhaite désigner ça d'une manière ou d'une autre selon la culture où il se trouve et qu'il appelle l'inspiration ou travail des mots, comme le disait Philippe, ça a peu d'importance. L'essentiel, c'est le produit.
Question suivante. J'avais une petite question, alors vous comprendrez à qui elle s'adresse. Parce que en écoutant Laurent Bazin, vous avez dit un travail sur l'empathie. Donc, un travail sur la sensibilité, mais qui est plus que ça, qui est aussi la relation humaine, quelque chose comme ça. Je me suis dit, en fait, au fond, est-ce que les dieux cachés, ils ne sont pas si cachés que ça, mais ce qui est peut-être caché, c'est plutôt une espèce d'éducation à l'empathie qui est là, sous-jacente, dans une bonne part de la science-fiction contemporaine. Et avant vous, Elisabeth von Harbour avait parlé de responsabilité aussi. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas un projet extrêmement sérieux, mais en même temps tâtonnant, donc humble, qui n'ose pas se dire ouvertement, parce que c'est peut-être pas la peine aussi, autour d'une espèce d'éducation à l'empathie qui est présente comme ça dans tout ça.
Moi, je vais passer le micro à Elisabeth von Harbour parce que ce que vous dites, je répondrai volontiers pour ma part, et ce que vous dites pour moi, c'est une très belle définition de votre ouvrage. Ce que je verrai de l'Uchronie que nous avons étudiée et que je trouve. Une belle définition, c'est-à-dire c'est une éducation à l'empathie.
Oui, je comprends pas ce que ça veut dire.
Si, je comprends ce que ça veut dire, mais je suis pas sûr de ce que je pourrais. Les commentaires que je pourrais faire à ça.
Éducation sans rage.
Si par empathie on veut dire une participation à l'autre. Oui. Moi, je peux faire court. Oui. Une participation à l'autre, effectivement, oui, c'est ce que m'a permis l'écriture. Ça a été long, parce que la construction de l'autre dans l'écriture, pour moi, a été un processus qui a pris des années. Mais je pense que j'y suis à peu près arrivée, et ça continue à tourner autour de ça. Comment toucher à l'autre sans le contaminer ? Comment participer à l'autre sans le récupérer, comment ne pas faire acte de pouvoir et d'autorité, et... oui, c'est ça, effectivement, ce serait ça. Voilà. Merci. Donc, merci à tous les cinq, merci à l'assistance pour toutes ces questions, toutes ces interventions. Et donc maintenant, eh bien, nous avons droit à une petite pause.